Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. La Hupp Motor Company, aussi connue sous le nom de Hupp Mobile, a été fondée en 1909 par Bobby Hupp et quelques autres investisseurs. Après avoir obtenu 25 000 $ en dépôt lors d'un salon de l'auto, la compagnie commença la production de la Hupp 20 dans une petite usine de Détroit. Mais le succès de la voiture fut fulgurant et la production dut déménager dans une usine beaucoup plus grande pour répondre à la demande. En 1910, à peine un an après sa création, la Hupp Motor Company produisait 5 000 voitures par année. Pour vous dire à quel point la Hupp 20 est un succès, Henry Ford a déjà dit qu'après avoir vu cette voiture, il se demandait s'il pouvait construire une aussi bonne voiture à un aussi bas prix. Le succès ne lâchait pas la Hupp Motor. Alors qu'à peine deux ans après leur déménagement, faute d'espace, l'histoire se répéta et un site de 3 hectares fut inauguré. La croissance se poursuivit jusque dans les années 30, quand la compagnie choisit de produire que des voitures 8 cylindres qu'ils vendent évidemment beaucoup plus chères que la 4 cylindres, qui était alors en demande. C'est ce qui débuta le déclin de l'entreprise. Un des éléments les plus intéressants de la Hupp Motor Company était son réseau de concessionnaires. C'est un des premiers qui était aussi développé. Bien que la Hupp Motor Company a disparu depuis près de 80 ans, une de ses concessions a été le lieu de naissance d'un empire qui célèbre son 100e anniversaire cette année, la NFL. Le 20 août 1920, les représentants des Akron Pros, Canton Bulldogs, Cleveland Indians et Dayton Triangles se réunissent dans un concessionnaire Hupp Mobile à Canton en Ohio et forment la American Professional Football Conference dans le but d'élever les standards du football professionnel, d'éliminer le maraudage entre les équipes et de s'assurer de la coopération des clubs pour le respect des horaires de match. Les 4 clubs originaux étaient de l'État de l'Ohio. Et après avoir eu vent de la création de cette ligue et de ses intentions, d'autres équipes commencent des discussions avec le groupe. C'est comme ça que le 17 septembre 1920, les 4 équipes de l'Ohio, ainsi que des équipes de l'Indiana, de New York et de l'Illinois, forment la American Professional Football Association, qui est composée alors de 14 équipes. Il n'en reste que 2 aujourd'hui. Les Bears de Chicago, qui étaient les Decanter Stallies, et les Cardinals de l'Arizona, qui étaient les Cardinals de Chicago. Lors de la saison inaugurale de 1920, il n'y avait aucun classement, et le championnat a été donné aux Akron Pros simplement basé sur leur fiche de 8 victoires, aucune défaite et 3 matchs nuls. En 1921, lors du premier match de championnat, les Chicago Stallies remportent le titre dans la controverse. Ben oui, toute une histoire cette année-là. En fait, ça ressemble pas mal à un manque d'organisation. Je vous l'explique. À la fin de la saison 1921, les All-Americans de Buffalo ont la meilleure fiche de la ligue avec 9 victoires, aucune défaite, 2 nuls. Mais lors du match de championnat, ils perdent le titre aux mains de Chicago parce que le propriétaire de Buffalo croyait que c'était un match hors concours, imaginez-vous donc. Mais là, j'ai toujours parlé de l'American Professional Football Association jusqu'à date. C'est que le nom de la National Football League ne voit le jour que le 24 juin 1922. La APFA devient alors officiellement la NFL. La NFL, comme on la connaît aujourd'hui, avec ses 2 conférences et une finale entre les champions de chacune d'elles, c'est en 1933 qu'elle voit le jour. L'année suivante, il se passe quelque chose d'inconcevable aujourd'hui, alors que de 1934 à 1946, il n'y a aucun joueur noir dans la Ligue. Bien que certaines informations soutiennent que c'est parce que la Grande Dépression avait causé un fossé racial, d'autres impute la situation à l'arrivée de George Preston Marshall dans la Ligue en 1932. Il était le propriétaire des Boston Braves, qui deviendront les Redskins de Washington. et qui refusait catégoriquement d'aligner des joueurs noirs dans son équipe. Il avait fait pression auprès des autres équipes pour qu'ils fassent la même chose. Mais ce personnage était très ouvert aux Autochtones. D'ailleurs, le premier entraîneur de son équipe en était un. Il était tellement ouvert envers les Premières Nations qu'en 1933, il renomme son équipe les Redskins et ils déménageront à Washington en 1936. Une autre raison pour laquelle Marshall ne voulait pas de joueurs noirs dans son équipe, c'est qu'il avait beaucoup de partisans dans le sud des États-Unis. Et il voulait conserver et agrandir son bassin de fans. D'ailleurs, la première équipe de la NFL dans le sud des États-Unis n'est arrivée qu'en 1960. C'était les Cowboys de Dallas. Dans les années 30 et 40, quelques autres ligues avaient essayé de compétitionner la NFL sans succès. En fait, il n'y avait que la Ligue canadienne de football qui a survécu, probablement parce qu'elle était dans un autre pays et que les règles du jeu étaient différentes. Tout ça change en 1960, quand la American Football League voit le jour. Elle est la première vraie menace à la NFL, alors qu'elle obtient des contrats télé et est en mesure de concurrencer la NFL au niveau des salaires des joueurs. Mais en 1966, la NFL, qui refuse d'être deuxième, choisit de fusionner avec la AFL. C'est cette fusion qui donne naissance au Super Bowl. Le premier a eu lieu en 1967 et opposait les Chiefs de Kansas City aux Packers de Green Bay. Les quatre premiers Super Bowls se tenaient entre les champions de la AFL et ceux de la NFL. La fusion a été complétée en 1970 et c'est à ce moment que la Ligue a été divisée en deux conférences, la Conférence nationale et la Conférence américaine. Imaginez-vous donc que la NFL contemporaine n'a eu que trois commissaires. Pete Rozelle, de 1960 à 89, Paul Tagliabue, de 89 à 2006, et Roger Goodell, de 2006 à aujourd'hui. Rozelle a vu croître les assistances lors des matchs qui sont passés de 3 à 17 millions de spectateurs. Et son dernier Super Bowl en tant que commissaire, le Super Bowl 23 en 1999, était regardé par 400 millions de téléspectateurs dans le monde. Pour Tagliabue, son règne fut marqué par des négociations de contrats qui ont atteint des milliards de dollars et une expansion de 4 équipes. Et Goodell, lui, il a focusé sur la réduction des coûts à la tête et il cherche à rendre le football plus sécuritaire. Pour vous montrer l'immensité de la NFL, quatre grands réseaux américains détiennent les droits de diffusion. CBS, ESPN, NBC et Fox. C'est assez incroyable, car c'est une des rares ligues à avoir quatre réseaux majeurs de diffuseurs. Et en plus, certains matchs sont aussi streamés sur Amazon Prime Video le jeudi. Tous ces télédiffuseurs payent des milliards de dollars en droits et c'est extrêmement rentable, parce qu'en 2017, la NFL détenait les trois premières positions pour ce qui est du prix d'une pub de 30 secondes aux États-Unis. Le match du dimanche soir demandait 699 000 $ pour chaque pub de 30 secondes. Les deux matchs du jeudi soir, 550 000 et 549 000 pour 30 secondes. Et ça, ça ne prend même pas le Super Bowl en considération. Pour le Super Bowl 54, présenté en 2020, les compagnies doivent payer 5,7 millions de dollars pour une pub de 30 secondes, et ça n'inclut même pas le coût de production de la pub.
Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. So but you?
Nothing. Watching the game, having a bud.
True. True.
What's up?
Yo, who's that?
Yo! Yo, pick up the phone!
Ça, c'était un classique des pubs de la NFL. La fameuse pub de Budweiser, What's Up. Certains croient à tort qu'elle a été diffusée pour la première fois durant un Super Bowl, mais c'est en décembre 99 que la pub que vous venez d'entendre a été diffusée pour la première fois. Évidemment, il y a eu tout plein de versions. Et cette année, en 2020, Budweiser a même refait une version mise à jour pour fêter les 20 ans de cette publicité. Parlant du Super Bowl, on va y aller avec quelques faits en rafale. C'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh qui sont le plus décorés avec chacun 6 titres du Super Bowl. Et les Pats sont aussi l'équipe avec le plus d'apparitions au Super Bowl. Ils ont été finalistes 11 fois. C'est aussi la deuxième journée où il y a le plus de bouffe consommée aux États-Unis, après la Thanksgiving américaine. Et c'est souvent l'émission télé la plus regardée de l'année aux États-Unis, et c'est l'événement sportif annuel le plus regardé au monde. Ce qu'on entend là, c'est le thème de la remise du trophée Vince Lombardi, qui a été nommé en l'honneur du coach des Packers de Green Bay qui a gagné les deux premiers Super Bowls. Il a été dessiné et est toujours produit par Tiffany & Co. Et contrairement à la Coupe Stanley, par exemple, le trophée qui est remis sur le terrain est gardé par l'équipe championne. Et c'est pour ça qu'un nouveau trophée est produit chaque année. La NFL a aussi permis d'innover au niveau de la retransmission des matchs à la télévision. Au début des années 80, John Madden, oui, celui des jeux vidéo, qui est un légendaire entraîneur devenu commentateur télé, utilise le Telestrator pour la première fois. Ça, c'est l'écran sur lequel un journaliste écrit avec un crayon électronique. C'est très répandu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était innovateur. Il y a aussi la Skycam qui a été utilisée lors d'un match pré-saison en 1984. Ça, c'est une caméra qui est suspendue au-dessus du terrain et qui est contrôlée par ordinateur et qui permet d'avoir des images à vol d'oiseau du terrain et des équipes qui y jouent. Comme ça, on peut avoir une autre perspective du jeu. D'ailleurs, cette caméra-là est maintenant utilisée dans plusieurs autres sports sur la planète. Avec sa 100e saison terminée, la NFL est définitivement là pour rester. C'est grâce à elle, à ses innovations et à sa capacité de marketing qu'aujourd'hui, d'autres sports peuvent être télévisés et rentabilisés. Sans la NFL, on n'aurait peut-être jamais eu de hockey, de baseball, de basket ou de soccer à la télé. Qui sait? Merci d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados et en espérant que vous en avez appris plus sur ce phénomène qui a marqué nos vies. Suivez aussi le compte Instagram Raconte-moi Balado pour connaître en primeur le sujet de la semaine. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.